L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine, présentée par Fabrice Coustet.
Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue sur Radio Patrimoine pour ce nouveau numéro de l'Hebdo. Radio Patrimoine, c'est la première web radio 100% dédiée au patrimoine. Chaque semaine, vous le savez, on décrypte ensemble l'actualité économique, financière, parfois immobilière. Mais cette semaine, c'est la dernière émission de la saison, donc ce sera une émission estivale un peu décalée. On va s'intéresser aux événements qui reprennent un petit peu partout en France et notamment aux événements qui mêlent sport et business. Ces événements qui sont sportifs et informatif, c'est ce que proposent certaines agences. On va le voir, vous avez peut-être vous-même été invité à une de ces journées sur un golf pour faire de la voile, pour faire du polo, pour découvrir, peut-être faire du tourisme. En tout cas, ça mêle sport et info. Alors, est-ce qu'on peut faire du business sur ces journées? Est-ce que propice aux rencontres, aux échanges? C'est ce qu'on va découvrir ensemble avec nos invités. J'ai le plaisir d'accueillir Clément Duval. Bonjour Clément.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur commercial France de Keren Finance. À vos côtés, Renaud Péchou, bonjour Renaud.
Bonjour Fabrice.
Directeur associé de cabinet Temis Executive Search. On va découvrir dans un instant ce que vous faites exactement. Hervé de Roquefeuille, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Vous êtes directeur commercial d'1-2-3-IM. Et enfin, Thomas Cabrière, gérant de l'agence BCM Sport. Bonjour Thomas.
Bonjour Fabrice.
Voilà, avec vous, on va découvrir justement, puisque vous êtes tous, je crois, des aficionados du golf. C'est bien
c'est ça.
Exactement. Donc on a un point commun. Ben voilà. Moi aussi j'adore ça. Et je suis sûr qu'ils sont nombreux sur Radio Patrimoine à nous écouter, qui adorent aussi ce jeu et qui vont le pratiquer tout au long de l'été. Allez, l'Hebdo Patrimoine spécial sport et business, c'est parti.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
On commence avec vous, Thomas. C'est vous qui dirigez donc l'agence BCM Sport et qui, avait eu l'idée de créer cette agence qui mêle ces événements sportifs et le business. Comment ça s'est passé ?
Absolument. Et écoutez, effectivement, ça a démarré il y a 16 ans maintenant, en 2005, où l'idée était effectivement, à travers l'agence BCM Sport, de proposer aux entreprises des moments de rencontre autour du sport. L'idée étant de pouvoir effectivement associer des moments de convivialité, des moments sportifs et aussi des moments business, puisque notre métier, en résumé, en synthèse, c'est de pouvoir proposer aux sociétés de se retrouver en dehors de leur bureau pour passer un bon moment et, je dirais, favoriser des moments d'échange un petit peu moins informels tels qu'ils peuvent exister dans l'univers professionnel.
Donc, bien sûr.
Ça a démarré sur
cette action-là. Quelles sont les activités que vous proposez ?
Alors écoutez, on a principalement, et vous en avez parlé, le golf, qui est, c'est vrai, notre passion qui nous réunit autour de cette table. Mais on fait effectivement aussi des choses dans d'autres, sur d'autres sports, sur la pétanque, le tennis. Voilà, le golf étant présentant un certain nombre d'avantages, puisque c'est un sport qui se pratique en plein air, qui a plein de moments de rencontre autour de ces journées. Et voilà, et donc on organise ce type de manifestation autour du golf. Et la nouveauté cette année, c'était l'idée de créer un événement permettant de rassembler les acteurs de la finance, d'où les drives de la gestion financière qu'on a eu le plaisir de lancer cette année malgré ce contexte sanitaire un petit peu compliqué. Et puis, y a des gens qui sont autour de cette table avec moi qui ont eu la gentillesse de nous accompagner. Et voilà, donc peut-être qu'on en reparlera un petit peu plus.
Après cette année compliquée, c'est sûr, on est ravis de se retrouver, encore plus sur les plateaux de télé, bien sûr, mais aussi sur les golfs. Alors, on a Clément Duval. Clément, j'ai appris récemment que vous étiez le champion de Fourqueux, un golf qui est dans pas très loin de Paris, un magnifique golf, effectivement, sur lequel l'agence de Thomas a fait donc ses drives de la gestion financière. Vous êtes tombé dans le golf tout petit.
Tout petit, effectivement, puisque mes parents étaient membres de Fourqueux et j'y suis arrivé quand j'avais 2 ans.
Voilà. Alors, à l'adolescence ou peut-être pendant quelques années, c'est un peu la soupe à la grimace quand on est forcé de faire quelque chose, mais ça fait un beau champion aujourd'hui puisque vous trustez régulièrement le Grand Prix du golf. Hein. Je crois que si on voit le leaderboard, il y a pas mal de votre nom qui est inscrit au palmarès.
J'ai eu la chance de gagner effectivement à plusieurs reprises le championnat du club, mais en tant qu'enfant du club, c'est un vrai plaisir surtout de pouvoir le représenter à l'extérieur. Et ça, pour nous, c'est un réel bonheur de pouvoir porter les couleurs d'un club lors des grands événements.
Et puis Clément, vous mêlez du coup votre passion avec votre deuxième passion, votre métier, bien sûr. à la tête de, en tant que directeur commercial de Carine Finance. Pour vous, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui, pour ceux qui nous écoutent, qui ont peut-être l'idée de faire ça, vous allez faire des émules, qu'est-ce qui se passe justement quand on invite ses clients, ses partenaires, ses contacts, peut-être ses prospects sur un événement comme ça qui va durer souvent? Le golf, faut y aller, c'est quand même assez loin, c'est pas en centre-ville et ça dure souvent toute la journée. Qu'est-ce que vous recherchez dans ces moments-là?
Ce qu'on cherche, c'est un petit peu ce qu'expliquait Thomas tout à l'heure. C'est-à-dire que nous, on les sort de leur contexte traditionnel et on va passer beaucoup de temps avec eux. Ça veut dire que quand on, en passant de longues heures pendant toute une journée, on arrive à parler d'autre chose que du business. On arrive à avoir une relation beaucoup plus personnelle et personnalisée avec eux. C'est ça qu'on va rechercher au travers de ces événements. C'est de leur faire vivre des émotions également, de partager des émotions avec eux qui, derrière, vont être des éléments marquants pour la relation commerciale qu'on va pouvoir définir et entretenir pendant de très nombreuses années avec eux. J'ai eu l'occasion à plusieurs reprises d'organiser des séminaires à l'étranger, autour du golf également. Mes clients, 10 ans après, m'en parlent toujours avec beaucoup d'émotion et sont très très heureux de ces événements-là, que je ne vais pas tarder à relancer d'ailleurs, je pense.
Et oui, après une trêve hein, évidemment, due au confinement, au Covid, à la pandémie, c'est vrai que c'est en train de repartir et c'est tant mieux. Renaud Péchou, vous êtes vous associé au cabinet Témis Executive Search. C'est on exact. Est sur la...
Du recrutement,
j'allais dire chasseur
cabinet
de tête.
De chasse, non, ça se dit plus. Si, quand même. Cabinet de chasse, mais spécialiste du recrutement dans le tertiaire financier. Et grâce à Thomas, effectivement, à cet événement, on a pu participer en tant que partenaire, à inviter également nos clients et surtout à retrouver avec grand plaisir des sociétés avec lesquelles on a l'habitude de travailler et que l'on accompagne sur les recrutements. Donc passionné aussi de golf, mais associé l'étant un peu moins. J'ai représenté effectivement Témis Executive Search lors de cet événement et j'ai également invité des clients à nous qui étaient dans la gestion d'actifs. C'était MNJ avec Brice Angers et Janus Anderson avec Yann Dubarbier et Charles-Henri Herman, donc que Clément connaissait effectivement et qui sont directeurs commerciaux aussi dans d'autres sociétés. Donc c'était l'occasion de retrouver un peu tout le monde, de lier effectivement le travail et la passion pour le golf, de voir, de passer un bon moment et de découvrir Fourqueux également. Merci Clément, parce que moi je ne connaissais pas du tout ce golf et on a passé un super moment. Une journée très agréable, ensoleillée. Et voilà, et puis pour
est-ce
nous...
Est-ce qu'on fait du business sur ces événements? Est-ce que c'est maintenir les liens ou est-ce que c'est vraiment une opportunité où, je ne sais pas, lundi le suivant, le téléphone sonne, oui, bon, c'était
ça,
bien.
Ça peut, évidemment, parce qu'on peut effectivement parler de besoins dans des sociétés à cette occasion-là. Maintenant, c'est plus l'occasion de discuter d'autres choses, comme disait Clément. Alors, je ne vais pas dire de fidéliser, mais de partager un moment vraiment avec nos partenaires, de les remercier aussi, parce que c'était l'occasion quand on choisit des clients, qu'on en invite, c'est aussi pour les remercier de leur confiance. Voilà, donc, et puis de rencontrer d'autres personnes, effectivement, et de s'ouvrir un peu. Il y avait des sociétés que l'on ne connaissait pas, vers qui on a pu aller, et puis on espère pouvoir faire... des recrutements pour eux à l'avenir. Voilà,
et puis de s'amuser un petit peu aussi. On continue notre tour de table avec Hervé de Roquefeuille. Donc vous êtes directeur commercial 1-2-3 IM. Même question, Hervé, vous avez participé à ces événements. Pour vous, quel est l'enjeu?
L'enjeu, c'est surtout de retrouver nos partenaires. Parce que, pour rappel, on sortait d'un an de confinement. Et c'est vrai que pouvoir leur proposer un événement en extérieur, dans un cadre prestigieux qu'est le Golf de Fourqueux, très bien organisé, effectivement, par les équipes de Thomas, ça a permis de nous retrouver. Et effectivement, comme le disait Clément tout à l'heure, l'avantage du golf, c'est qu'on vient, on est détendu, parce qu'effectivement, on y passe la journée. Mais du coup, on est vraiment là pour se relaxer. C'est une compétition sportive, entre guillemets, mais on est quand même là pour prendre du plaisir. C'est quand même un parcours, un apéritif le soir. Donc largement le temps de discuter effectivement avec d'éventuels prospects ou d'entretenir et de maintenir des relations avec nos partenaires historiques.
Thomas, c'est vrai qu'en préparant cette émission, on me disait j'ai de la chance moi d'être dans des endroits plutôt sympathiques et d'avoir des gens contents, puisque c'est vrai que là quand on reçoit en fait ses clients et leurs clients, c'est plutôt dans une bonne ambiance en général.
Absolument, moi c'est vrai que je dis souvent, moi je considère que j'ai beaucoup de chance de faire le métier que je fais. D'une part, parce qu'effectivement, je suis sur des golfs qui sont quand même, je considère, des endroits, des bureaux, des cadres plutôt sympathiques. Et effectivement, la deuxième raison, c'est que les gens arrivent sur ces événements déjà avec le sourire, parce qu'ils sont contents de pouvoir s'extraire un petit peu de leur quotidien, de leur bureau, de leur vie professionnelle. Et donc on partage à travers ces journées, et même moi en tant qu'organisateur, des moments très sympathiques. Donc ça, effectivement, j'ai un vrai plaisir à exercer ce métier. Je considère que c'est une chance. Et voilà, maintenant, effectivement, il faut que les choses... pour que les choses se fassent, il faut un peu de travail aussi pour les commercialiser, avoir la chance de trouver des partenaires comme ceux qui sont ici avec moi autour de cette table. Mais voilà, mais c'est vrai que, et ça rejoint effectivement le point, je pense, essentiel, la raison pour laquelle ça fonctionne, c'est que de toute façon, on a tous besoin de se retrouver entre amis, en famille, de rigoler. C'est peut-être encore plus vrai maintenant qu'avant le confinement, puisque je pense que ça a montré du doigt les manques qu'on avait de ne pas pouvoir partager, se voir les uns les autres. Donc c'était quelque chose qui fonctionnait déjà avant. Alors, pour être honnête, c'est vrai que pendant la période du confinement, nous, on a eu quand même des doutes, puisqu'on a perdu, je pense, peut-être 80% de notre chiffre d'affaires sur cette activité d'événementiel. Donc à savoir, est-ce que les choses allaient repartir? Est-ce que les gens allaient de nouveau avoir envie de se voir? Bon, la réponse, est tant mieux, elle est largement positive. Et je dirais même peut-être encore plus que par le passé, puisque bah, je pense que ça nous a tous manqué de se voir et qu'on est content de le faire. Et comme le disait Hervé avant, c'est vrai que la chance que l'on a avec le golf, c'est qu'on est en extérieur. Donc c'est un cadre qui permet de le faire sans avoir trop de stress. Quant au virus et, ou par rapport à des endroits plus confinés.
On a des fois maintenant plus de stress par rapport à la météo que par rapport au virus, et on espère que ça va rester comme ça. Clément, moi j'ai eu la chance de participer à quelque chose, une nouvelle formule que vous avez lancée, je crois que c'était la quatrième année, c'est l'Asset Golf Tour. Est-ce que vous pouvez nous en parler?
Oui, en fait l'idée est née il y a maintenant 5 ans avec certains autres partenaires, certaines sociétés de gestion. On s'est dit pourquoi ne pas lier plaisir et professionnalisme en faisant une formule assez simple où on va dans une dizaine de villes en tournée. Le matin, on fait des réunions pendant 2 heures, donc on présente nos sociétés, on parle de notre actualité commerciale, on déjeune avec nos partenaires, et l'après-midi, on fait 9 trous avec les partenaires, ou alors, pour ceux qui découvrent le golf, on les emmène pour une initiation. Donc on va faire partager notre passion à des golfeurs ou à des non-golfeurs, mais en tout cas, on aime emmener, c'est sûr, nos clients dans ces cadres, comme on n'arrête pas de le répéter, qui sont des cadres idylliques pour travailler, et ça fait du bien à tout le monde. En plus, on le fait toujours entre juin et juillet, ce qui permet d'être à la belle saison sur des parcours qui sont très bien entretenus. Sortons de nos bureaux, sortons les clients de leurs bureaux, de leur contexte traditionnel. Et honnêtement, à la question tout à l'heure, est-ce qu'on peut faire du business? Moi, j'ai envie de vous répondre, oui. Fidéliser des clients, c'est faire du business. Travailler avec des nouveaux prospects pour générer du business derrière, c'est évidemment ce qu'on fait lors de ces journées.
Et voilà, il n'y a pas que les grandes conventions ou les grands salons professionnels. Voilà, avec les petits fours, le champagne, c'est pas mal aussi d'être en extérieur. Alors justement, on va voir dans un instant comment les uns et les autres vous avez traversé cette crise, comment le business aussi reprend. On voit ça dans un instant après notre première pause musicale. À tout de suite. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, yeah, now I can't escape. Nothing happens after two, it's true, it's true, my bad. Every pure intention ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started on the neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and then
standing alone. Conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use, or do my bad habits lead to white eyes staring at space?
Sur Radio Patrimoine, Bad Habits.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
L'émission dédiée aux professionnels de la finance avec les professionnels de la finance, voilà, et les amis du sport, ça tombe bien, on est à quelques jours de l'ouverture des Jeux Olympiques, notre dernière émission de la saison, on s'intéresse aux événements qui mêlent sport et business avec le golf, hein, surtout. On discutait à la pause, on peut le dire, Clément, c'est vrai que dans ces événements, forcément, on touche principalement ceux qui adorent le golf ou ceux qui veulent s'initier. Pas évident. On dit souvent une petite blague de golfeur. Elle est plus dure en golf, hein, on le sait, c'est les 10 premières années. Comment on fait quand vous ne touchez pas tout le monde, du coup? Est-ce que vous allez vous diversifier? Je ne sais pas, faire du tennis, de la voile, d'autres choses?
On fait énormément d'événements avec nos clients. Alors le golf est évidemment un des sports que l'on préfère pour les raisons que nous avons indiquées en début d'émission, à savoir ça prend du temps, on part toute une journée, on est proche de nos clients, on est dans l'action, mais une action relativement passive toute la journée avec eux. Donc on peut échanger. Lorsque l'on fait de la voile, du ski, c'est un petit peu différent. C'est beaucoup plus actif comme sport, donc on a moins le temps d'échanger. C'est aussi pour ça que le golf pour nous représente des avantages qui sont considérable. Il n'y a pas beaucoup finalement de sport où vous partez toute une journée avec vos clients. Très peu. Et donc nous, on aime forcément celui-ci en particulier, mais ça ne nous empêche pas de faire pas mal d'autres choses à côté. L'objectif étant toujours la même chose, de générer de l'émotion avec les clients, de passer du bon temps avec eux. Si on peut leur glisser une petite phrase de temps en temps sur notre activité, c'est bien aussi.
Ouais, en espérant qu'ils retiennent le message. Thomas, vous avez diversifié comme ça, vous nous disiez peut-être sur d'autres activités ou d'autres secteurs, parce que c'est vrai que le golf, juin, juillet, bon après il y a quelques beaux jours, mais bon après en février ça va être plus compliqué. Est-ce que vous êtes tenté d'ouvrir chez BCM Sport justement le champ d'activité?
Alors oui et non. Oui, dans le sens où on fait à travers d'autres sports, mais qui sont complémentaires ou qu'on a pu aussi intégrer sur des événements de golf. Par exemple, la pétanque. Récemment, on a pu organiser un événement golf-pétanque, événement dans lequel il y avait évidemment la compétition golf. Et au retour, on avait monté un certain nombre de pistes de pétanque, on va dire éphémères, sur la pelouse. Et donc, on a fait un classement cumulé entre la compétition de golf, la pétanque. Ceux qui ne jouaient pas au golf, effectivement, ont pu s'initier et participer à la pétanque. Donc nous, en fait, on essaie surtout, effectivement, au-delà du golf, de trouver des choses qui soient ludiques, que tous les invités puissent pratiquer, et qu'à chaque fois ça crée des échanges. C'est vrai que la pétanque c'est un bon exemple puisque tout le monde peut, sans avoir un très bon niveau, pouvoir y jouer. Et voilà, donc c'est ce genre de choses. On a nous récemment aussi diversifié nos activités puisqu'on a repris une régie commerciale événementielle d'un golf qui est celui de Paris-Longchamp, donc qui est aux portes de Paris sur l'hippodrome de Longchamp. Et c'est un lieu sur lequel on peut organiser des activités type after work le soir autour du golf, autour de la pétanque. Récemment, on a fait du tir à l'arc aussi. Donc voilà. Après, on ne cherche pas forcément à faire des choses l'hiver. C'est vrai que nous, on a des métiers qui sont plus saisonniers. Les gens ont plus envie de sortir à l'extérieur au beau jour. Donc voilà. En revanche, effectivement, on peut diversifier sur des sports, des activités complémentaires.
Hervé de Refuge, voilà, 1, 2, 3, IM, vous êtes directeur commercial, donc il faut. C'était pas évident, hein, toute cette période qu'on a connue où tout se ferme un peu, où on était habitué, on s'est habitué, bon gré mal gré, à faire tout un tas de visio, de conférences, etc. J'imagine que là, on est d'autant plus content, on le disait tout à l'heure, de se retrouver et de revoir ses clients en vrai, et en plus pour des événements plutôt sympathiques et festifs.
Exactement, c'est vrai que on a, comme tout le monde, hein, d'ailleurs, essayé de passer comme on pouvait cette crise sanitaire, en organisant effectivement régulièrement des webinaires pour être encore une fois au plus près de nos clients et de nos partenaires. Mais à un moment donné, on a envie de se retrouver de manière physique. Les restaurants ont mis du temps à ouvrir, pour rappel, qui est un lieu où on se retrouve régulièrement avec nos partenaires. Et c'est vrai que pouvoir participer à des tournois de golf, encore une fois, sur toute une journée, dans des espaces extérieurs, c'était vraiment indispensable pour nous. Il y a l'initiation, et Thomas l'a rappelé, je pense que c'est, encore une fois, c'est un sport. Je m'y suis mis tardivement, donc on peut s'y mettre à n'importe quel âge. C'est un peu plus long en termes de progression, mais encore une une fois, on peut s'y mettre à n'importe quel âge. Et voilà, je pense que c'est bien de pouvoir aussi mêler à la fois des joueurs talentueux comme ceux qu'on a autour de cette table et des joueurs qui sont en phase d'initiation, qui vont justement découvrir encore une fois la beauté de ce sport, qui, encore une fois, je crois, a pas mal recruté cet été, enfin en tout cas pendant la première partie de l'année, pas mal de jeunes qui se sont mis, ou moins jeunes qui se sont mis à ce sport. Donc tant mieux, il y a un engouement et tant mieux, on est là aussi pour suivre les tendances, on va dire, dans le sport, parce que comme vous le savez, chez 1-2-3, on a lancé un fonds sur la thématique du sport. Parmi nos thématiques d'investissement, on finance beaucoup des entrepreneurs dans le milieu du sport. On a financé donc des entreprises notamment comme Snow Leader, c'est peut-être qui est un des leaders français de distribution d'articles de sport outdoor sur Internet. Donc voilà, nous, c'est bien évidemment une thématique qu'on affectionne. Et quand on peut mêler, j'ai envie de dire, le financier et le plaisir de la thématique, c'est encore mieux.
Voilà, en plus, c'est vrai que toutes ces thématiques private equity, ça flambe en ce moment. On va y revenir dans un instant. Je passe mon compte, Clément, j'ai l'impression qu'on a même eu plus d'adhérents, enfin de licenciés au golf l'année dernière, puisque c'était un des seuls sports finalement qu'on pouvait faire en extérieur alors que tout a pratiquement été fermé.
Alors le nombre de pratiquants a augmenté très largement cette année, c'est vrai. Le nombre de licenciés est reparti légèrement à la hausse. Effectivement, c'est très bien parce que le golf était en légère décroissance de licenciés ces dernières années. Je vous cache pas que tous les golfs associatifs avaient peur de perdre beaucoup de membres au passage 2021, et finalement on a un engouement énorme cette année en termes de recrutement dans les golfs associatifs. Donc je confirme ce que disait Hervé juste avant, il y a de plus en plus de jeunes golfeurs, il y a de plus en plus de personnes qui sont des golfeurs mais qui n'étaient pas inscrits dans des clubs, qui maintenant passent la porte et qui ont envie de profiter le week-end, de passer du bon temps entre amis, en famille. C'est réellement quelque chose qui se dégage énormément actuellement.
Est-ce qu'on a toujours cette image de sport élitiste ?
De moins en moins. Très clairement, la Fédération française de golf depuis 20 ans cherche à démocratiser le golf, cherche à changer l'image du golf. Ça a été extrêmement bien fait au travers d'événements comme la Ryder Cup qui s'est jouée en France il y a 2 ans maintenant. Et on a pu se rendre compte qu'on pouvait mettre un public, quel qu'il soit, à ce sport. Et finalement, mettant le grand public directement en train de jouer au golf sur des événements comme il y a eu au pied de la Tour Eiffel notamment, beaucoup se sont rendus compte que c'était amusant, que c'était finalement beaucoup plus difficile qu'il n'y paraissait au départ et que c'était un vrai sport. Et emmener des gens sur le parcours qui ne savent pas jouer, ils découvrent que c'est un vrai sport, ils découvrent tout le plaisir qu'il y a autour de ce jeu. Et résultat, on a aujourd'hui de plus en plus de pratiquants qui deviennent des licenciés. Et c'est ça la grande nouveauté.
Et voilà. Et la Ryder Cup qu'on a gagnée, européen, c'était il y a 3 ans, parce que 2020 ne compte pas. C'est pour
Exactement.
Ça qu'on dit souvent 2 ans. Renaud, une petite question pour vous aussi sur votre business. On disait, voilà, on a fait le petit tour de table sur cette crise qui a arrêté l'ensemble des business, sauf peut-être les golfeurs qui avaient continué à jouer. Pour vous, comment ça s'est passé quand on est sur le recrutement? On a eu cette période de gel également qu'on a connue dans d'autres business.
Oui, tout à fait. Alors, ça dépend des secteurs, évidemment. Sur la gestion d'actifs, parce que moi je suis spécialiste de la gestion d'actifs, on a eu effectivement des mandats qui ont été gelés ou interrompus. On peut aborder deux parties. La première, ça a été le changement de notre métier quand même, parce que on recevait plus les candidats, donc du coup on a dû le faire par ordinateur, enfin par.
C'est intéressant, ça. Est-ce que les boîtes, enfin ceux qui vous mandatent, donc pour rechercher, vous disent, mais nous, on continue notre process, même si c'est par visio, même s'il n'y a pas justement le fait de rencontrer les gens physiquement.
Alors ça n'a pas gêné. Il y a des process qui ont été faits complètement de manière digitale. Mais quand même, le client rencontrait le candidat lors des deux derniers entretiens, essayer de se croiser quand même pour se voir. Il y a 2 recrutements comme ça qui ont été faits vraiment de manière totalement digitalisée, on va dire. Voilà. Après, d'autres recrutements ont été mis en stand-by et relancés à partir de septembre de l'année dernière. Je crois qu'on est quand même sur un secteur qui est très actif. Les projets sont maintenus, les budgets sont toujours là. Il y a une forte croissance actuellement. Enfin, sur certains secteurs, parce que cabinet spécialisé donc sur le private equity, M&A, gestion privée et asset management, sur le M&A et private equity, on a quand même une tendance de fond qui est très très dynamique et même presque une pénurie de candidats. C'est-à-dire que mon associé Étienne Maillard, qui est en charge du M&A, me dit qu'on est proche des années 2007-2008, où il faut innover pour trouver des nouveaux candidats. Toutes les sociétés cherchent sur la même seniorité et effectivement, ben, pendant quelques temps, on n'a pas eu de recrutement, donc ça, c'est assez compliqué.
Avec une nouveauté, vous me disiez en antenne, c'est que la profession se féminise. En tout cas, les directions veulent avoir plus de femmes dans leur board. Ouais. On est très mal placé sur ce plateau pour en parler. Ouais, on ne respecte pas la parité. Comment on fait ? Est-ce que vous trouvez aussi les profils ou du coup, ce sont des profils encore plus rares ?
Ce sont des profils encore plus rares. Ça dépend encore une fois des secteurs. Si vous allez sur la gestion d'actifs, c'est vrai que si vous allez sur tout ce qui est marketing, communication, c'est une population très féminine. Mais si vous allez sur le M&A ou chercher effectivement une seniorité très précise, c'est un peu plus compliqué d'avoir plus de femmes ou plus d'hommes. Donc il faut pour le coup, il ne faut pas innover. Il faut juste faire comprendre aux clients que parfois ça n'est pas possible. Et puis c'est discriminatoire aussi dans l'autre sens par rapport à des hommes qui nous appellent en nous disant mais moi je suis bon pour ce poste et j'aimerais bien avoir ce poste. Donc, mais ce sont des critères, c'est vrai que c'est à prendre en question aujourd'hui. Maintenant, c'est pas une généralité non plus. Enfin, je veux dire, le client, au bout du bout, recrutera le meilleur candidat, même s'il cherche un peu à se féminiser.
Tiens, les uns et les autres, petit tour de table. Là. Alors, on va vous mettre juste après sur le sport. Mais dans l'asset management, là, est-ce qu'on on sort d'une très bonne année hein, si on regarde, alors on a une petite cassure là sur les derniers jours, mais sur le point bas, si on remonte, je crois que la bourse a repris 80%. Du coup, les gens qui ont une petite frayeur en mars 2020, avril 2020, on voit que ça a été très très vite repris. La Fed a fait ce qu'il fallait, les banques centrales d'une manière générale. Comment ça se passe au niveau de vos métiers les uns et les autres ? Est-ce que vous confirmez cette embellie ? Est-ce que vous aussi vous êtes sur des métiers en tension ? Je pense justement peut-être au niveau des recrutements, au niveau des sociétés qui sont en train de grossir, certaines de fusionner.
Alors nous, c'est vrai qu'on est moins impacté par les marchés, hein, parce que comme vous le savez, nous on fait du private equity, donc on est non coté, on n'investit pas du tout sur les marchés financiers. Notre métier, c'est d'accompagner des entrepreneurs dans leurs projets de développement. Effectivement, on connaît une croissance assez importante ces dernières années, parce qu'il y a, comme vous le savez, une grande démocratisation de la classe d'actifs du non coté. Et puis, il y a aujourd'hui, effectivement, des baisses de rendement qui se matérialisent un petit peu partout. Donc les investisseurs sont en recherche, justement, de rendement un petit peu plus significatif, ils doivent prendre un petit peu plus de risques. Donc ils doivent se positionner sur cette classe d'actifs du non-coté. Et puis il y a un nouveau vecteur, j'ai envie de dire, qui est apparu depuis 2-3 ans, c'est aussi le fait qu'ils veulent donner du sens à leur épargne, ils veulent investir dans l'économie réelle. Et c'est vrai que pouvoir leur dire, bah, chez un 2-3e, vous allez financer, je vous ai parlé de manière très concrète, de Snow Leader tout à l'heure, qui est un entrepreneur qu'on accompagne, mais on finance également sur le secteur du tourisme, sur le secteur de la dépendance santé. On finance des actifs qu'on accompagne et on est là pour des périodes de 5-6 ans pour les accompagner dans leur projet de croissance. Donc ils s'identifient à un projet, ils s'identifient à un entrepreneur. Et ça, je pense que dans le contexte actuel, pouvoir dire à un client ben voilà dans quoi tu vas injecter ton argent, il va servir à la relance de l'économie française. Je pense qu'aujourd'hui, c'est extrêmement intéressant et ça montre effectivement, et nous on le ressent effectivement dans les collectes depuis le début de l'année, puisqu'on a une collecte très importante depuis ce début d'année. Encore une fois, pour à la fois la qualité de notre gestion, la qualité des rendements qu'on peut proposer, et puis je pense aussi de l'autre côté, la volonté des investisseurs de donner du sens à leur épargne.
Ouais, c'est vrai que c'est une tendance lourde en ce moment. Clément Duval, du côté de Keren Finance, belle année également, je pense. Les mid-cap, notamment, prennent leur revanche, les moyennes valeurs en ce moment.
Vous avez parfaitement raison. Depuis les plus bas de fin mars l'année dernière, les marchés ont repris de manière extraordinaire. En fait, la grande chance que nous avons tous eue, c'est que c'est reparti à la hausse aussi vite que ça a baissé. Donc du coup, les investisseurs n'ont pas forcément eu le temps de prendre peur, puisque au moment où ils ont commencé à cristalliser leurs pertes et à se dire où est-ce que nous allons, finalement, les marchés sont repartis quasiment aussi vite à la hausse. Et aujourd'hui, ils sont bien plus hauts qu'au moment où ils sont mis à baisser. Donc finalement, boursièrement parlant, la plupart des investisseurs ont aujourd'hui des capitaux qui sont plus importants qu'en février, quand ça a commencé à février 2020, quand ça a commencé à baisser. Comment ça se traduit dans une maison comme Keren Finance ? Ça se traduit de manière assez simple. Quand on a des marchés qui sont accidentés comme cela, c'est des occasions fabuleuses pour aller renforcer le capital humain. Et le capital humain dans une société de gestion, c'est recruter des gérants, c'est recruter des analystes. Et nous, en 2020, on a choisi de recruter deux nouveaux gérants. Un gérant action, Stéphane Pasqualetti, sur l'univers des petites et des moyennes capitalisations. Et je rejoins parfaitement Hervé dans son discours sur le sens que veulent donner les clients finaux à leurs investissements. Et aujourd'hui, dans l'univers des petites et des moyennes capitalisations, on rejoint et on est très proche du private equity dans certains investissements. puisque même si c'est dans des entreprises cotées, nous investissons pour du moyen long terme. Et on a recruté aussi un autre gérant l'année dernière, qui s'appelle Benoît Solaire, un gérant de produits de taux. Donc on investit dans des obligations d'entreprises françaises et européennes. Ces investissements aujourd'hui ont une très belle résonance avec la remontée des marchés, avec l'accompagnement, vous parliez des banques centrales qui sont toujours là. Et j'ai l'impression que tant que ces banquiers centraux auront des discours ultra accommodants, ça poussera les marchés au moins à rester là où ils sont aujourd'hui, même si on le voit bien avec l'arrivée, le départ, le retour des différents variants, on a des marchés qui sont extrêmement volatile et de plus en plus accidenté.
Ouais, on en fait l'expérience en ce moment. Alors, dans un instant, justement, on va voir si ça peut continuer côté finance. On va voir également, retrouver notre thématique sport-business, quels sont les événements peut-être qui vont être prévus tout au long de l'été et de l'année. On se retrouve juste après notre deuxième pause musicale. À tout de suite. Ready with the crazy love. It ain't strange to us. Dancing on dangerous. Sean Paul, Sophia, Iman Beck. Crazy vibes, so we're living in dangerous. They could never be caged in a street. Me said the road could contagious. Shit fire where we blaze like crazy must. Oh, girl get insane with us. Fly high to the sky, jet plane with us. No shame, cause we're living in dangerous. Cause we're living in dangerous.
See you, see me, girl. And you know, say you're in my visual. I give me the most energy if you get physical. Why you want me? Me want you to. Make me know how far you want to go. Push to the limit and let the rhythm flow. Even though you feel danger, now let go.
Dancing on Dangerous, Iman Beck, Sean Paul et Sophia Reyes sur Radio Patrimoine.
L'Hebdo Patrimoine, l'émission dédiée aux professionnels de la finance sur Radio Patrimoine.
Dernière émission de l'année spéciale sport business avec un détour évidemment sur les marchés. On en profite, on a des spécialistes autour de la table. On parlait justement de cette volatilité qui revient un petit peu sur ces derniers jours après 6 mois. Je crois que depuis 1998, on n'avait pas vu ça. Ben, pour ceux qui aiment les chiffres, on a eu plus 17%. Et en 98, le saviez-vous, qu'est-ce qui s'est passé en août? Eh ben, on a eu un crack. on a perdu moins 10%. Est-ce que c'est le scénario de base, Clément Duval?
Le crack boursier, non, c'est pas le scénario de base.
Parce que août, c'est compliqué, comme c'est souvent les gérants sont pas là en plus, on surveille pas trop, on se dit il va rien se passer.
Alors je vous rassure, les gérants sont pas là, ça c'est une légende, et les gérants sont même en vacances quotidiennement connectés, et ils ont surtout à chaque fois des backups au bureau pour passer les ordres. Ça, il n'y a pas de sujet. La période qu'on vient de vivre avec les confinements successifs ont bien montré qu'on n'avait pas nécessairement besoin d'être au bureau pour faire tourner une société de gestion et gérer un fonds. Donc non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Est-ce qu'on attend un crack demain matin pendant... Non, la réponse est non. Je veux dire, aujourd'hui, les signaux sont plutôt au vert de manière générale. Évidemment, tout le monde se pose des questions quant au niveau de valorisation des actifs. Maintenant, on a quand même, on le disait un petit peu tout à l'heure, des banques centrales qui sont à la manœuvre depuis tellement longtemps, qui ont injecté tellement d'argent dans le système, que finalement, le jour où ils changeront de discours, là, on peut se poser des questions et on pourrait avoir un retournement de marché. Mais à aujourd'hui, sincèrement, les choses avancent plutôt bien. C'est assez amusant ce qu'on vient de vivre là. Vendredi dernier, les marchés ont fortement baissé. Lundi, tout le monde tout d'un coup a pris peur du variant Delta. Les marchés ont perdu plus de 2% en France. Et puis là, depuis deux jours, on a l'impression qu'il n'y a plus de variant Delta parce que les marchés sont même plus hauts que vendredi dernier. Donc c'est extrêmement difficile pour des investisseurs de suivre des tendances de très court terme. Je crois qu'il faut avoir une vision beaucoup plus longue aujourd'hui, accepter un certain niveau de volatilité si on veut avoir un minimum de rendement dans ses investissements aujourd'hui.
Hervé de Roquefeuille, on vient de parler des valorisations justement. Elles explosent également en private equity. Il paraît que c'est les deals se font sur des multiples de plus en plus élevés. En gros, on paye plus cher les boîtes. Est-ce que c'est une réalité? Est-ce que là aussi, le fait qu'il y ait beaucoup d'argent en ce moment ne fait pas qu'on peut peut-être survaloriser certains business models?
Oui, c'est sûr. Alors après, juste pour compléter ce que disait Clément, c'est vrai qu'il y a les marchés ont monté récemment parce que aussi les résultats d'entreprises sont bons et notamment sur les small et mid cap, les entreprises ont été performantes. Donc encore une fois, c'est pas non plus une bulle. C'est vraiment il y a une réalité économique derrière. Sur notre marché, effectivement, il y a un afflux de liquidités très abondant pour les réseaux que j'évoquais tout à l'heure. Néanmoins, sur notre créneau à nous, c'est-à-dire on va dire la small cap dans le private equity, donc de valeur d'entreprise entre 3 et 50 millions d'euros, il y a un petit peu moins de concurrence. Beaucoup de gens font du capital risque, donc du venture capital, vraiment de l'investissement dans les startups. Et là, effectivement, il y a un afflux de liquidités très significatif parce qu'il y a de belles histoires. On a tous vu les licornes françaises et bravo, c'est des super success stories. Donc il y a beaucoup de liquidités là-dedans. Et il y a beaucoup de liquidités aussi sur les grosses large caps, j'ai envie de dire. Mais sur notre créneau à nous, on est plutôt tranquille et on arrive nous à encore avoir des niveaux de valorisation on va dire attractifs, le tout bien évidemment dans une diversification qui a toujours été le maître mot d'un autre royaume depuis maintenant 20 ans. Vraiment investir sur les secteurs très différents. On a fait beaucoup de tourisme, on a fait pas mal de médico-social, notamment résidence service senior, EHPAD, pharmacie, l'immobilier, promotion marchand, l'éducation, le sport, je l'évoquais tout à l'heure. Et ça nous a permis, dans un contexte compliqué comme 2020, d'avoir une thématique qui a été fragilisée. On parlera peut-être tout à l'heure, notamment le tourisme. Mais le fait qu'on soit diversifié, on a permis d'avoir un accroissement de notre portefeuille. Et les clients, finalement, ont pas tout perdu parce qu'on n'a pas tout misé sur l'hôtellerie.
Quand on regarde les IPO, les introductions en bourse, on est à un niveau record là aussi, c'était la ruée et de manière mondiale. En France aussi, il y a eu, je crois, une trentaine ou une quarantaine d'opérations et on frise l'indigestion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit des sociétés qui ne font plus des belles introductions en bourse. Comment expliquer ce phénomène?
Peut-être laisser Clément répondre sur le sujet.
Est-ce que vous suivez, c'est une bonne question, est-ce que vous suivez, c'est bien sûr les introductions en bourse. On sait que c'est quand même l'exit, comme on dit, pour une société qui peut se coter donc directement, être achetée par l'ensemble des investisseurs. Et pourtant, on voit que certains sont à la peine.
Alors, il faut bien voir une chose, c'est qu'une IPO, ça reste avant tout une source de financement complémentaire pour une société. Et aujourd'hui, il y a tellement d'argent dans le marché, comme on l'a dit, que beaucoup de nouvelles sociétés viennent émettre et rentrer en bourse pour aller chercher des sources d'investissement complémentaires pour accroître plus rapidement leur croissance. Elles ont été extrêmement violentes, extrêmement fortes depuis le début de l'année. Effectivement, il y a quelques histoires qui se passent un peu moins bien. Mais dans la grande majorité des cas, ça se passe plutôt extrêmement bien. Il faut dire aussi, on parlait de niveau de valorisation tout à l'heure, certaines de ces sociétés qui sont introduites en bourse arrivent avec des exigences en termes de valorisation qui sont complètement aberrantes. Donc le marché n'est pas complètement fou. Il y a un moment où la valorisation réelle de l'entreprise est un critère que tout le monde prend en compte. Et lorsque des valorisations sont trop élevées par rapport à un niveau de croissance future, il y a une sanction. Ça marche tout simplement comme ça. Et aujourd'hui, on a des histoires qui sont tout simplement relayées de par leur niveau de valorisation excessif.
Ouais. Il faut trier donc.
C'est le métier des gérants. C'est le métier des gérants dans le private equity. C'est le métier des gérants dans l'asset management. Le métier de base, c'est de rencontrer des sociétés, de faire des projections sur des croissances futures pour savoir si oui ou non on peut avoir une croissance intéressante du cours de bourse en ce qui nous concerne.
Oui, c'est tout à fait juste. Et nous, on le voit aussi dans notre marché. C'est-à-dire que les bons élèves avant la crise ont subi la crise comme tout le monde, mais s'en sortent bien. Et les niveaux de valorisation, on va dire, restent à peu près similaires. Effectivement, le mauvais élève avant la crise, qui a été survalorisé, il a été pénalisé par la crise. Et effectivement, lui souffre vraiment. Mais quand vous misez tout le travail que que font Clément ou nos équipes, c'est voilà, vraiment ce travail de sélection, de stock picking qui nous permet d'essayer en tout cas de ce mauvais aiguillage sur des valorisations trop élevées.
Et il nous reste quelques minutes à passer ensemble, messieurs. On parle un peu prospective. Renaud, on revient sur tout ce qui est recrutement. On l'a vu, hein, les articles dans les Échos encore hier sur l'emploi des cadres qui est en train de très très bien reprendre. Vous nous disiez que certains métiers sont en tension. Est-ce que justement il y a une porosité dans certains métiers? Vous allez chasser sur les terres du private equity ou de la gestion d'actifs pour recruter dans le private equity?
Tout à fait. Alors, on dit effectivement qu'une société se porte bien aussi quand elle recrute. Et je crois qu'il y a des sociétés de gestion, il me semble que c'est Mirova, qui investit. Un de ses critères, en tout cas, c'est si la société recrute, on investit parce qu'elle est en bonne santé, etc. Donc, ça peut être un critère, effectivement, que l'on peut regarder. Sur la porosité, on en parlait effectivement tout à l'heure, c'est entre le private equity et la gestion d'actifs. C'est vrai que le private equity avait l'habitude de lever de l'argent plutôt de manière intimiste, les associés, les institutionnels, ça se faisait assez facilement. L'asset management touchait peut-être un champ plus large avec le retail, les institutionnels, et donc du coup, quand maintenant le private equity veut toucher une certaine clientèle, on va chercher effectivement les candidats dans l'asset management. Alors c'est bon pour les RFP, c'est bon pour le marketing, la communication et effectivement toute tous les candidats commerciaux qui ont l'habitude de toucher au retail. Donc la tendance est très bonne actuellement. Franchement, pense que l'année dernière...
Les clignotants sont au vert.
Oui, tous les clignotants sont au vert. L'année dernière, toutes les sociétés de gestion ont fait des coms de surpair. Ça a été très rentable. Cette année, le début d'année a été bon, mais je pense qu'ils attendaient de voir aussi ce qui allait se passer. Tous les projets maintenant ont été validés, les projets de recrutement, il y a l'internationalisation, il y a toutes les thématiques ISR, ESG qui ne cessent effectivement de se développer, qui sont complètement intégrées maintenant dans les gestions. Donc là, on recrute des analystes ISR, des responsables ESG, etc. Le marketing, les RFP, mais même dans la gestion maintenant, je veux dire, sur un poste de gérant action américaine, on cherche des gens qui ont une sensibilité ESG, ISR. Donc c'est vraiment très présent. Et puis il y a le private equity qui est sur une lame de fond très très dynamique et où tout le monde presque veut aller travailler. C'est vrai qu'on est proche des entrepreneurs et c'est un super métier.
Ouais, on a l'impression que après que la finance a un peu patiné la post-crise de subprime, c'était pas très de bon ton de dire qu'on était dans la finance. C'est vrai que le private equity, les startups, voilà, tout ça attire le venture capital. Et ben c'est tant mieux. C'est peut-être le nouvel Eldorado. On le verra. En tout cas, bon, ça va plutôt bien pour vos business. On va se tourner du coup vers Thomas Cabrière, BCM Sport. Remarquez, si eux vont bien, vos clients, la gestion d'actifs, le business d'un côté, c'est les événements de demain qui se préparent.
Absolument. Effectivement, nous, on est aussi sujet. On n'est pas complètement décorrélé de la réalité de l'économie, de la façon dont les sociétés se comportent. Et là, effectivement, l'activité fonctionne bien. Mais c'est vrai que nous, on a une actualité septembre qui est très chargée. On a énormément d'événements, donc on a des bonnes perspectives, mais c'est vrai que depuis maintenant plus d'un an et demi, on est sur du stop and go en permanence, donc on est toujours, on a une réserve, on attend de voir si effectivement le mois de septembre sera toujours propice à l'organisation de ce type de manifestation. Bon, on reste très confiant parce que je pense pas qu'on puisse de nouveau et très régulièrement arrêter complètement les activités. On est en plus, on l'a déjà dit tout à l'heure, un sport qui se pratique en extérieur. Donc on a des perspectives effectivement qui sont intéressantes, pas mal de projets, d'événements organisés sur le mois de septembre. Et puis plus globalement, moi en fait ce que je pense, pour étayer un petit peu le propos du début de cette émission, c'est qu'en fait, et ce que je trouve assez amusant, c'est qu'aujourd'hui on le voit en particulier dans les très grandes entreprises, il y a un sujet et un thème qui revient régulièrement, qui est celui de la compliance, où en fait finalement des grandes entreprises qui sont dirigées par des financiers disent il faut décorréler l'humain du business. Or, moi, mon avis sur la question, c'est qu'on ne peut pas empêcher les gens d'avoir des affinités, d'avoir, et heureusement, je pense, des sujets, des passions, envie de partager des choses, et que la réussite de ces événements vient aussi du fait que les gens ont besoin de se voir. Et donc, je pense que ces métiers, ces manifestations, sont encore des métiers d'avenir, puisque le digital, ça permet de faire des choses, ça permet de faire plein de choses à distance, le télétravail, ça a plein d'avantages. Mais néanmoins, on a, pour moi, en conclusion, toujours besoin de se voir et de partager des bons moments les uns avec les autres.
On rappelle, Thomas, que vous ne travaillez pas qu'avec les financiers. Hein, enfin, c'est connexe. On a le programme des VIP de l'immobilier, on a les drives de l'assurance. Vous essayez de diversifier comme ça différents secteurs.
Oui, alors, si vous voulez, pour faire simple, nous, il y a deux cas de figure. Soit on organise des manifestations, des événements directement pour le compte d'entreprises, qui simplement qui nous mandatent en tant qu'agence pour leur organiser, donc des invitations, l'organisation, le jour d'événement, les différentes prestations ou animations qui peuvent aller autour. Et puis nous, l'idée que l'on a effectivement depuis un certain nombre d'années, c'est aussi de proposer des événements métiers, ou on peut dire affinitaires, permettant à des acteurs d'une même profession de se retrouver. Donc c'est dans cette idée-là qu'on a créé il y a 13 ans le programme des VIP d'immobilier. Programme, ça veut dire association de joueurs amateurs et professionnels, qu'on a créé, qu'on a lancé cette année, les drives de la gestion financière et les drives de l'assurance. Donc l'idée étant aussi de se dire, et ça c'est mon avis personnel, c'est que je pense que les salons tels qu'ils existent dans leur forme actuelle s'essoufflent et s'essoufflaient déjà, je pense, avant le Covid. Et que je pense qu'il faut aujourd'hui, à travers ce type de manifestation, proposer des choses un peu plus ludiques et un peu moins formelles. Voilà, les salons peuvent avoir aussi un certain nombre d'avantages. Voilà, donc c'est la raison pour laquelle, aussi, et là, une des raisons complémentaires, c'est qu'il y a des sociétés, des personnes qui nous ont dit que ce type de manifestation les intéressait, mais qu'ils n'avaient pas forcément le nombre de clients suffisant pour faire leur propre événement. L'avantage des drives de la gestion financière, par exemple, c'est que les sociétés peuvent participer en achetant une équipe, deux équipes. Donc, à partir de 4 personnes, on peut s'intégrer à cet événement sans avoir son événement et les contraintes inhérentes à la privatisation et au coût d'un événement en propre.
Ouais, c'est intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'on est tous habitués de ces grands salons et c'est vrai qu'on a l'impression que ça ronronne un petit peu, qu'il n'y a pas vraiment d'innovation. Est-ce que, justement, c'est l'avenir peut-être de sortir carrément des grands centres d'exposition et d'aller au golf rencontrer ses clients directement?
L'avenir, je ne sais pas. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est ultra complémentaire du reste et que ces formats-là existaient hier, vont certainement continuer à se développer demain. Est-ce qu'on peut se passer d'un salon dans notre métier, c'est patrimonial, plus gros et qui fait référence? Est-ce qu'on peut réellement aujourd'hui se passer de patrimonia? C'est compliqué de ne pas aller à la rencontre de plusieurs milliers de clients pendant 2 jours quand on est un acteur dans le développement. C'est pas possible. Aujourd'hui, on fait du qualitatif avec le type d'événement comme ceux que propose Thomas et on fait du quantitatif sur des grands salons. Est-ce qu'on va continuer à faire les deux activités en parallèle? La réponse est clairement oui.
C'est clair. Eh bien, messieurs, on va vous laisser troquer les costumes pour les polos. Voilà. Où est-ce que... Tiens, un petit tour de table rapide. Où est-ce que vous allez jouer cet été, Clément?
Au Pays Basque, bien sûr.
Quel golf?
Chantaco.
Très bien.
Évian.
Évian. Ce week-end? Non, pas.
Non,
ça va être compliqué.
Non, 3 semaines.
Il y a un petit tournoi qui se prépare.
Oui, c'est pas possible. Il sera bien préparé, du coup.
Oui, il sera très beau.
Moi, ce sera la télé, du coup.
Vous, ce sera la télé, petit accident avec une jambe dans le plâtre en ce moment. Et enfin, Thomas.
Et moi, ce sera Dinard, moi, en Bretagne.
Très bien, voilà le tour de France des golfs. On souhaite en tout cas un excellent été à vous. On remercie Clément Duval, le directeur commercial de Keren Finance, Renaud Péchou, directeur associé de cabinet Tebis Executive Search, Thomas Cabrière, gérant de agence BCM Sport, et Hervé de Roquefeuille, directeur commercial d'1-2-3e. Merci à Sophie Bernard qui a préparé cette émission, à Jason Pinheiro et Baptiste Pouchard qui l'ont réalisé. Je vous donne rendez-vous après un très bel été à la rentrée sur Radio Patrimoine. Très bel été à tous.
L'hebdo Patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.